La première fois qu'apparaît la loi du talion est dans le code d'Hammurabi, vers l'an 1730 avant Jésus-Christ, dans le royaume de Babylone. Cette loi permet d'éviter que les personnes ne fassent justice elles-mêmes et introduit un début d'ordre dans une société où règne la loi de la jungle. Le code Hammurabi se présente sous la forme d'une liste de plus de 200 jurisprudences, et bon nombre d'entre elles sont empreintes de cette réciprocité du crime et de la peine. La formule « œil pour œil, dent pour dent » revient trois fois dans les écrits de Moïse. Bien plus tard, le philosophe grec Aristote dit « Si un homme souffre le mal qu'il a fait, alors il y aurait une stricte justice. » Que ce soit la loi du talion ou la déclaration d'Aristote, elles font penser à une lame de guillotine. Pour ma part, je préfère de loin l'affirmation de l'apôtre Paul quand il écrit aux Romains « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais pour ce qui concerne Édom, la loi du talion lui est appliquée dans toute sa rigueur à cause de la cruauté dont il a fait preuve envers son frère Jacob. » Je continue de lire dans le livre d'Abias. Le jour où l'Éternel jugera tous les peuples se rapproche à grands pas, et l'on te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. L'humiliation d'Édom est un avant-goût du jugement que subiront les nations qui s'attaquent à Israël, et son châtiment est une illustration du jugement à venir de toutes les nations qui aura lieu le jour de l'Éternel. Cette expression apparaît souvent dans les textes sacrés, mais Abias est le premier auteur sacré à l'utiliser. Le jour de l'Éternel peut désigner n'importe quelle intervention de Dieu dans les affaires de ce monde sous la forme de châtiment. Cependant, la plupart du temps, c'est une référence à cette période historique qui commencera par un jugement de cette année, appelé « tribulation », et qui sera suivi du règne millénaire de Jésus-Christ comme roi de toute la terre. En d'autres mots, le jour de l'Éternel sera l'occasion pour Dieu de révéler sa majesté et sa toute-puissance. Édom subira donc la loi du talion. Il a pillé Jérusalem, il sera lui-même spolié. Il subira le même sort. Les Édomites ont livré des rescapés israélites à leur ennemi. Eh bien, quand les Édomites seront en fuite, ils seront refoulés. Comme ils se sont réjouis du désastre subi par Judas, à leur tour, ils seront humiliés et finalement détruits. Je continue de lire la prophétie d'Abias. En effet, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Quand les Édomites sont entrés dans Jérusalem, ils se sont laissés aller à une telle célébration qu'elle a dégénéré en orgie. Au milieu de Jérusalem, la cité de Dieu, ils se sont enivrés, buvant goulûment à la santé de leurs idoles. De plus, ils ont probablement utilisé la vaisselle sacrée qu'ils ont prise dans le temple. Ce crime de lèse-majesté ne restera pas impuni. Ils ont aimé boire du vin sur la montagne sainte. Eh bien, ils vont maintenant devoir boire la coupe de la colère de Dieu. Et toutes les nations qui, comme Édom, sont hostiles à Israël et veulent sa destruction, doivent-elles aussi goûter à cette même coupe. L'image de boire la coupe de la colère de Dieu est fréquente dans les Écritures et sert à évoquer le jugement divin qui, semblable à du vin, assomme. Dans le psaume 60, le psalmiste écrit « Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles, tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. » Quand Jésus reviendra pour établir son royaume, il détruira tous les gouvernements humains et il ne restera plus rien ni du pouvoir politique des nations, ni de la puissance militaire. Voilà pourquoi Abdias dit « Elles seront comme si elles n'avaient jamais existé ». Je continue le texte. « Mais sur le mont Sion, il y aura des rescapés. Ce sera un lieu saint. Le peuple de Jacob reprendra possession de ce qui lui revient. » Abdias sait très bien que sa patrie sera envahie par les Babyloniens, puisqu'il a donné un avertissement aux Édomites de ne pas se rendre coupables des mêmes crimes que ceux qu'ils ont commis au moment du sac de Jérusalem sous Joram, roi de Juda. Cependant ici, il regarde loin dans le futur, le début du millénium, et il fait donc abstraction de tous les événements intermédiaires comme la disparition du royaume des 10 tribus du Nord, ou la déportation en masse de Juda de son retour de l'exil. Comme son propos est la restauration d'Israël, il ne parle pas des malheurs qui attendent son peuple. À la fin des temps, les nations qui auront combattu Israël seront anéanties, et le peuple juif rentrera en possession de tous les territoires qui lui ont été promis et qu'occupaient auparavant ses ennemis. Aujourd'hui, les Juifs sont à nouveau dans leur pays, mais 60% d'entre eux vivent encore hors des frontières d'Israël. Par ailleurs, ils ne possèdent qu'une petite partie de la terre promise que l'Éternel leur avait donnée. Et en plus, on la leur dispute constamment, ce qui fait qu'ils sont obligés d'être armés jusqu'aux dents afin de ne pas se faire refouler dans la mer Méditerranée par leurs voisins. À la fin des temps, les rescapés comprendront non seulement les descendants de Jacob, mais aussi tous ceux d'origine païenne qui auront placé leur foi en Jésus-Christ le Messie, le prophète Joël écrit. Alors, tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Selon ce qu'a dit l'Éternel, il y aura des rescapés sur le mont de Sion et à Jérusalem les survivants que l'Éternel appellera. Les uns et les autres formeront alors un seul peuple, la communauté des rachetés, et Jérusalem, le lieu saint par excellence, sera le seul centre religieux du monde vers lequel afflueront tous les croyants. Le prophète Michée écrit « Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et les peuples y afflueront. » Je continue le texte. Le peuple de Jacob sera semblable au feu. Les enfants de Joseph seront comme une flamme. Les enfants d'Ésaü, par contre, seront comme du chaume qui sera embrasé et consumé. Il ne réchappera pas un seul survivant parmi les enfants d'Ésaü. L'Éternel le déclare. En adjoignant les enfants de Joseph au peuple de Jacob, Abdias prophétise la réunification des 12 tribus, ce qui est souvent mentionné dans l'Ancien Testament. Il est vrai que personne des 10 tribus du Nord, emmenées en captivité par les Assyriens, n'est revenu au pays. Cependant, beaucoup d'entre eux s'étaient réfugiés chez leurs frères du Sud, ce qui fait que des nombres des 12 tribus initiales font partie du royaume de Juda. En prophétisant que le peuple édomite sera consumé par les Israélites, Abdias ne fait que répéter sous forme poétique et brutale ce qu'il a déjà dit. Édom sera laminé par Israël. Cette prophétie s'est littéralement accomplie au deuxième siècle avant notre ère, quand les Édomites sont attaqués et soumis par les Juifs, conduits par la famille des prêtres appelés Maccabées. Mais le pire était encore à venir. Vers l'an 135, avant notre ère, un autre membre de la famille des Maccabées les contraint à se soumettre à la loi de Moïse et à se faire circoncire sous peine de mort. Les Édomites perdent alors toute autonomie et toute identité en tant que peuple. Finalement, ils s'allient aux zélotes juifs et périssent avec eux lors de la prise de Jérusalem par le général romain Titus en l'an 70. Je continue. Ceux du Négev s'empareront de la montagne d'Ésaü, et ceux qui vivent dans la plaine posséderont la Philistie. Ils viendront occuper le territoire d'Éphraïm, qui est celui de Samarie. Les gens de Benjamin s'empareront de Galaad. Abias décrit les territoires qui, à la fin du temps, sont annexés par Juda et Benjamin, les deux tribus qui forment le royaume légitime d'Israël. Après la conquête du pays promis, les 12 tribus l'ont partagé en tirant au sort. L'héritage de Juda se subdivise alors en 3 portions. Le sud, la plaine, et les montagnes, tout comme dans la prophétie d'Abias. Un passage du livre de Josué donne le nom de toutes les villes situées dans ces 3 sections qui sont appelées premièrement la partie méridionale du territoire de Juda, près de la frontière d'Édom, dans le Négev. Deuxièmement, la plaine côtière, et troisièmement, la région montagneuse. Le Négev est une région désertique au sud de la Palestine. Les Juifs qui y habiteront s'empareront du pays d'Édom jusqu'à la mer Rouge, ainsi que de l'Idumée, le territoire qu'occupaient les Édomites après avoir été expulsés de la montagne de Séir par les Arabes nabatéens. Ces annexions sont l'accomplissement de plusieurs prophéties. J'en lis 2. La première dans le livre des Nombres et la seconde dans Ésaïe. Un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. Il brise les flancs de Moab, il abat tous les fils de Seth. Édom sera conquise. Séir, son ennemi, tombera en sa possession. En ce jour-là, moi, l'Éternel, je relèverai la hutte de David qui tombe en ruine. J'en boucherai les brèches et j'en relèverai les ruines. Je la redresserai comme autrefois. Alors ils entreront en possession de ce qui restera des Édomites et des autres nations appelées à m'appartenir. L'Éternel le déclare, lui qui réalisera tout cela. Les Juifs qui habitent dans la plaine, à l'ouest, posséderont le pays des Philistins jusque la Méditerranée, ce qui correspond un peu à la bande de Gaza. Je lis une prophétie de Sophonie à ce sujet. Ce district, le pays des Philistins, va échoir aux survivants du peuple de Juda. Ils y mèneront paître leurs troupeaux. Le soir, ils se reposeront dans les maisons à Ascalon, car l'Éternel leur Dieu interviendra pour eux et changera leur sort. La petite tribu de Benjamin, qui constitue, avec celle de Juda, le royaume israélite du sud, annexera Galaad, qui se trouve à l'est du Jourdain et qui est à l'origine, appartenait déjà à Gad et Manassé, 2 tribus rattachées au royaume du nord. Quant aux habitants de Juda qui n'ont pas été mentionnés, Abias dit, ils viendront occuper le territoire d'Éphraïm, qui est celui de Samarie, ce qui correspond au magnifique territoire de la partie ouest du royaume des 10 tribus, avec sa capitale qui occupe une situation géographique privilégiée. C'est ainsi qu'à la fin des temps, le peuple de Dieu, qui inclut à la fois le petit reste fidèle d'Israël et les rescapés de tous les peuples, possédera le territoire qui avait été donné au patriarche Abraham. L'Éternel lui avait alors dit, « Ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre, et étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest, vers l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. » Abias voit donc le peuple de Dieu représenté par Juda et Benjamin prenant possession de tout le pays promis. Leur agrandissement considérable symbolise l'établissement du royaume de Dieu qui s'étendra sur la terre entière, ce qui se réalisera avec le millénium. Je continue le texte. Les déportés d'Israël, toute une armée, qui sont parmi les Cananéens jusque vers Sarepta, et aussi loin que Sapharad, posséderont les villes du Négev. Au moment de la prophétie d'Abdias, les Israélites déportés sont emprisonnés un peu partout en attendant d'être vendus comme esclaves aux Grecs ou à d'autres peuples. Aujourd'hui, les Juifs sont disséminés dans le monde entier. Mais au début du millénium, ils afflueront tous vers Jérusalem. Sépharad est une ville inconnue qui n'apparaît nulle part ailleurs. Jérôme, père de l'Église, dit que ce mot ne désigne pas un lieu, mais veut dire frontière, en langue assyrienne. C'est un point de vue. Cependant, il est probable que Sépharad soit en fait Sardes, en Asie mineure, la Turquie actuelle, et qui se trouve à quelques 650 kilomètres de Jérusalem. C'est en tout cas l'opinion des spécialistes et des rabbins, et elle est tout à fait plausible, parce que le prophète Joël reproche aux Philistins et aux Phéniciens d'avoir vendu des Israélites aux Grecs. Or, à l'époque du prophète Abdias, Sardes est la capitale de la Lydie, qui est de culture grecque. Elle fut conquise par le Perse Cyrus le Grand en 546 avant Jésus-Christ. Sarepta, aujourd'hui Surafande, que mentionne Abdias, est une ville bien connue et qui était importante, comme le prouve Servine. Elle se trouve en Phénicie, un peu à l'intérieur des terres entre les villes de Tyr et de Sidon, qui elles sont situées sur la côte méditerranéenne. Aujourd'hui, ces villes sont au Liban. Ce territoire avait été donné par l'Éternel aux Israélites, mais ils avaient négligé de le conquérir. Soit dit en passant, que c'est à Sarepta, chez une veuve démunie de tout, que le prophète Élie se réfugie après avoir obéi à l'Éternel en ordonnant au ciel de ne plus donner de pluie. Il fuit Akab, un très mauvais roi d'Israël, qui veut sa peau. Je finis maintenant de lire le livre d'Abdias. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et alors, l'Éternel sera roi. Le prophète conclut ses prédictions avec la conquête finale des nations païennes hostiles à Dieu. Elles sont représentées par la montagne d'Ésaü, qui est conquise par des libérateurs. Un mot qui décrit les juges qui dirigent Israël avant que la monarchie ne soit établie par Samuel. Ces hommes et ces femmes ont une double charge, libérer le peuple de ses ennemis, puis le gouverner. C'est aussi la tâche de ceux que décrit Abdias dans la conclusion de sa prophétie. Ce rôle fut bien rempli par Zorobabel, gouverneur de Juda, après le retour d'exil, puis par la famille de prêtres appelés Maccabées, dont j'ai déjà parlé. Ils ont dû lutter contre des ennemis farouches, mais les ont vaincus, puis cette famille a dirigé et administré les Juifs de la Judée. Mais ces libérateurs, ces juges, ces hauts personnages, ne sont que des précurseurs du Messie, le Christ le Seigneur et le libérateur par excellence. Il sera le dernier à venir et à s'asseoir sur la montagne de Sion, le siège du royaume de Dieu sur terre. Dans sa vision prophétique, Abdias regarde loin dans l'avenir quand tous les royaumes de la terre seront soumis au Messie, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui les gouvernera. Le petit livre d'Abdias projette un message puissant, car il montre ce qui arrive à ceux qui, par arrogance, rejettent l'Éternel, le seul vrai Dieu. Pendant tout le temps que le royaume d'Édom est prospère, beaucoup en Israël auraient pu dire, comme le psalmiste, « Je porterai envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants ». Mais la voix du prophète Abdias résonne comme un coup de tonnerre à travers les pages de l'Ancien Testament, et on entend son écho dans le Nouveau, dans l'Épître aux Galates, où l'apôtre Paul dit « Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, on récolte ce que l'on a semé ». Les paroles d'Abdias soulignent la justice de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Nous connaissons bien celui qui a déclaré. C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est à moi qui rendrai à chacun son dû. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » La dernière phrase du livre d'Abdias « Alors l'Éternel sera roi. » Mérite qu'on s'y arrête. D'une certaine manière, l'Éternel règne déjà sur le monde, président souverainement à l'histoire humaine. Pourtant, son nom est bafoué, et très peu de gens l'invoquent véritablement. Il est souvent traité comme une idole qu'on appelle à l'aide quand les choses vont mal, par une prière ou un petit rite afin d'attirer son attention. Cette fonction de Dieu purement utilitaire ne l'honore véritablement pas. Alors, il œuvre à établir son règne en amenant les hommes à reconnaître son autorité et à se soumettre à lui. Le prophète Abdias parle d'un règne absolu, qu'aucune force humaine n'en est mesure d'accomplir. Un jour, Dieu se manifestera comme roi de ce monde et se sera reconnu comme tel en la personne de Jésus-Christ, de la lignée de David. Alors s'accompliront de nombreuses prophéties, dont celle émise par Jacob quand il a dit « Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel il appartienne et à qui tous les peuples rendront obéissance. » Alors sera réalisée la promesse que l'Éternel avait faite à David quand il lui a dit « Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Le prophète Zacharie aussi a vu le règne de Dieu sur terre. Il écrit « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le Dieu unique et son nom sera le nom unique. » Voilà donc ce que Abdias et d'autres prophètes ont vu se dessiner à l'horizon dans le lointain. C'est aussi l'attente des croyants. Il prie « Que ton règne vienne » et crie « Maranatha, le Seigneur vient !»